Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Ma femme d'aujourd'hui le dit d'elle-même, elle est tombée très tôt comme Obélix dans un chaudron assez particulier. Lequel, comment et pourquoi ? Eh bien, nous raconte tout ça tout de suite.
Midi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Mona Alami, bonjour. Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Mona ?
Bonjour Yasmine, ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation.
Alors, avec vous Mona, justement, cette histoire du salariat vers l'entrepreneuriat, beaucoup de personnes et surtout beaucoup de femmes ont envie de sauter le pas et franchement, nombreuses celles qui se posent la question de comment faire et surtout celles qui se disent s'il y a une recette magique pour pouvoir s'en sortir. Mona Alami, d'après votre expérience, est-ce qu'il y en a une des recettes magiques ?
Ah là là. Déjà, je pense que c'est des traits de caractère qui te poussent à aller vers un peu le goût du risque parce que l'entrepreneuriat est une très très belle aventure mais pleine d'embûches et donc, de devoir sauter le pas, c'est prendre en compte ce genre de choses-là et puis avoir cette idée que l'échec est un apprentissage. Que même si on saute le pas et qu'au final, on n'arrive pas à atteindre l'objectif qu'on s'était fixé, dès le départ, que ce n'est pas un échec en soi, mais que c'est un apprentissage. Et moi, c'est ce mindset-là qui m'a vraiment encouragée à sauter ce pas.
En vous disant, très bien, peut-être que je vais me casser la gueule, mais ce n'est pas grave, ça fait partie de l'apprentissage.
Exactement. Surtout que dans mon cas, j'ai repris une entreprise familiale qui battait un peu de l'aile. Et donc, je m'étais un peu lancé le challenge de la remettre sur pied pour pouvoir ensuite la développer. Donc, ce n'était pas une entreprise qui tournait où j'étais propulsée à la direction d'une entreprise qui était déjà en marche. Il fallait vraiment revoir les processus, les finances, les différentes stratégies, etc. Mais en même temps, je n'avais pas envie d'avoir de regrets ni de remords dans quelques années en me disant j'aurais pu ou j'aurais dû. Et donc, c'est comme ça que je me suis un peu lancé ce défi de la reprendre, quitte à échouer. Oui, je me suis clairement posé la question, et si je n'y arrivais pas
Et ça s'est passé, il y a eu l'échec, justement. C'était la première expérience d'entrepreneuriat.
C'était ma première expérience d'entrepreneuriat. Bon, pour l'instant, on y est encore, mais il n'y a pas eu d'échec. On tient bon. Mais c'est plus l'idée on grandit avec l'idée que l'échec n'est pas bon. Mmh. Alors que, voilà, pour moi, c'est important de se dire que dans chaque étape, il y a un apprentissage pour mieux faire par la suite. Voilà. Et donc, il n'y a peut-être pas eu l'échec. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise, alhamdoulilah, elle se développe, elle est sur la bonne voie. Mais il y a eu beaucoup d'embûches pendant ce parcours-là. Et donc, surtout, c'est un ascenseur émotionnel quotidien. Donc, il faut savoir être résilient et se relever. Se donner le droit de ne pas se sentir bien quand ça ne va pas bien, mais se dire que voilà, demain, ça va aller mieux et on va affronter ce qu'il y a à affronter. Voilà.
Alors, ce mindset, Mona Alami, justement, de se dire que l'échec ne doit pas faire peur, l'échec fait partie de l'apprentissage, ce n'est pas du tout coutumier dans notre environnement et dans de nombreux environnements, pas uniquement le marocain. Mais alors, vous, comment se fait-il que vous ayez entamé votre cursus entrepreneurial, carrière entrepreneuriale d'entrepreneur, avec déjà cette prise de conscience qui est un bon pansement pour le démarrage?
Alors, je
c'est
je
la
pense
vie,
que
c'est.
Il y a plusieurs réponses à cette question. Oui, bien sûr, c'est mon parcours. Déjà, le fait d'avoir des parents entrepreneurs, donc j'ai grandi avec des entrepreneurs à la maison. Je les entendais parler, leurs discussions, etc. Et puis j'ai fait des études en entrepreneuriat. Je suis passée par l'Achawain déjà. J'ai fait finance. Marketing à Huawei. Et puis, donc, ça forge aussi, c'est une culture au niveau de l'université. Et puis, j'ai fait un MBA en entrepreneuriat à Babson College, qui est l'université numéro un dans l'entrepreneuriat à l'échelle internationale. Et donc là, j'ai rencontré, on était 40% d'internationaux, et j'ai rencontré, voilà, on était dans un monde de collaboration, parce que c'était pas du tout un esprit compétitif, contrairement à d'autres universités américaines élitistes. Et donc, on a beaucoup échangé autour de l'entrepreneuriat, et je pense qu'à force d'échanger, de rencontrer des personnes qui sont passées par différentes étapes, ça nous forge déjà, et ça nous permet d'avoir cet esprit-là un peu plus ouvert quant à la réussite et quant à l'échec. Et puis, je pense qu'il y a aussi le fait que j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai toujours aimé prendre le sac à dos et partir à l'aventure dans différents pays à travers le monde. Et quand on est face à soi-même dans des milieux qu'on ne connaît pas, ça nous apprend à se dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait. Et quand on n'a pas le choix, il faut y aller. Et voilà, je pense que tout ça a fait que j'ai ce mindset-là aujourd'hui.
Alors Mona, quand même, après le MBA, donc vous avez intégré une multinationale. Vous n'êtes pas directement allée vers l'entrepreneuriat.
Non. Alors, quand j'avais fait mon MBA, j'avais pris un cours sur le family business. Mmh. Et comme j'ai dit, on était plusieurs internationaux, plusieurs étudiants qui venaient de plusieurs pays à travers le monde. Et on avait beaucoup qui étaient fils d'industriels importants et qui avaient comme objectif de reprendre l'entreprise familiale. Et le professeur nous avait clairement dit, écoutez, c'est pas une bonne idée d'être propulsé, fils d'eux, dans des postes de direction dans l'entreprise familiale, sans être passé par un parcours un peu plus neutre où vous allez vous identifier de manière neutre et sans avoir la famille, les émotions et tout ce qui va avec. Et donc j'ai décidé, moi j'étais très passionnée, j'ai toujours été très passionnée par le développement durable. Et d'ailleurs, pendant mon cursus entrepreneurial, j'avais pris des cours autour de la durabilité. Et en rentrant au Maroc, quand on a un CV avec MBA en entrepreneuriat et qu'un responsable RH voit ça, on n'est pas spécifique, c'est-à-dire que en général les directeurs RH, ils cherchent des gens qui sont experts en marketing ou en finance ou en ressources humaines, en communication, entrepreneuriat, ça veut tout dire mais ça veut rien dire en même temps. Donc c'était difficile de trouver un poste qui me correspondait et qui avait ce côté durabilité. On parle de ça en 2011. Tout ce qui était RSE, développement durable, ne faisait pas encore le buzz comme aujourd'hui, j'ai envie de dire. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer le président directeur général de cette entreprise-là qui m'avait annoncé qu'il lançait le plan de développement durable de ce groupe à l'échelle du Maghreb et qu'il cherchait à créer un poste dans ce sens et qu'il voulait quelqu'un d'autonome qui puisse être rattaché à la direction générale et qui puisse déployer un plan pour la cascade de ce plan pour le développement durable. Et donc, j'ai rejoint cette entreprise-là en 2011. J'y ai passé 7 ans. Et après 7 ans, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Voilà.
Alors, ce qui vous a amené vers l'entrepreneuriat, c'était reprendre l'activité familiale qui battait de l'aile, comme vous l'avez dit. Est-ce que ça rajoute des émotions à des émotions? Est-ce que les parents interviennent quand même? Est-ce que il faut pas trop les froisser? Est-ce que tout ça entre en jeu et rajoute des difficultés au challenge?
Alors, oui, bien sûr. enfin, sans entreprise, déjà, on sait que c'est difficile. Enfin, des fois, les relations sont difficiles avec la famille. Mais quand on y ajoute l'esprit de l'entreprise, ça complexifie encore plus les choses. En tout cas, pour ma part, après le Ahrawein, j'avais déjà essayé de rejoindre l'entreprise. Et j'avais vu que mes parents avaient leur culture d'entreprise, étaient leur bébé, et que il y avait ce clash intergénérationnel qui était là. Et donc je ne voulais pas plutôt j'avais respecté le fait que c'était leur entreprise à eux, et que voilà, même si j'avais un peu des idées un peu qui leur paraissait à eux farfelu à l'époque.
Qu'est-ce qui leur a fait prendre conscience que c'était bien d'intégrer Mona dans l'aventure?
Alors, ça a toujours été dans les discussions que Mona allait finir par reprendre l'entreprise.
Ouais.
Ça a toujours été là.
C'est une entreprise de fertilisation, c'est ça?
Oui, alors c'est une entreprise dans la valorisation des résidus organiques et dans la production de compost pour le sol. Voilà. Mm. Et donc, ayant vécu, ayant eu cette première expérience avec eux après l'Ahrawein, avant de faire mon MBA, je savais à quoi m'attendre par la suite, en tout cas. Et du coup, quand j'ai eu mon MBA, quand j'ai fait mes 7 ans, bon, déjà, je n'étais plus la même personne. J'avais aussi pris un peu plus confiance en moi. J'avais l'esprit un peu plus structuré. Et puis, donc là, j'étais un peu catégorique, où j'ai clairement dit, écoutez, pour pouvoir reprendre, il faut me faire confiance et me donner les rênes de l'entreprise. Donc voilà, ça a été la discussion difficile, mais qui a vite été acceptée, et donc c'est comme ça que j'ai pu reprendre l'entreprise. Mmh. Voilà.
Alors aujourd'hui, les parents interviennent toujours ?
Non.
Non ?
Non, depuis que j'ai repris, bon, ils sont là en tant que conseillers, bien sûr, quand j'ai besoin de conseils.
Et ils arrivent à faire la part des choses ? C'est-à-dire qu'ils ne se disent pas, oui, mais c'est quand même notre fille, on a le droit de dire ce qu'on pense, on a le droit de...
Non. Après, bon, il faut aussi savoir... c'est-à-dire que... Quand on est chef d'entreprise, ben on est mené à gérer nos interlocuteurs,
ouais.
Que ce soit les employés, les partenaires et aussi nos parents. Ben, écoute, il faut des fois, ben, dans la manière de discuter, il faut savoir mettre des fois des limites pour que ça ne déborde pas.
Même avec ses parents.
Voilà.
En fait, vous pouvez dire aujourd'hui que ce gap intergénérationnel, vous avez su le dompter, vous, à votre manière ?
J'estime que oui, aujourd'hui. Ça a été difficile.
Mais concrètement, comment ? Parce que ça, c'est un sujet qui intéresse beaucoup et qui fait peur à beaucoup de jeunes qui intègrent des sociétés familiales, des entreprises familiales. Ouais. Mais alors, concrètement, comment ? C'est-à-dire que...
Alors, en fait, c'est très compliqué parce que ça dépend beaucoup, comme on est dans l'émotionnel et dans les personnes, ça dépend du caractère des parents, ça dépend aussi du caractère des enfants. Il y a des parents qui sont plus dirigistes, il y en a d'autres qui sont plus dans la transmission. Donc vraiment, ça dépend beaucoup de ça, du caractère des parents, mais aussi du caractère des enfants. Il y a des enfants qui aussi ont besoin de cette indépendance-là, il y en a d'autres qui aiment bien rester sous l'aile de leurs parents.
Mais ceux qui ont envie de déployer leurs ailes comme vous, vous leur dites quoi, Mona ?
Moi, en tout cas, moi, j'ai dû... déjà, il faut savoir se connaître. La première des choses, c'est savoir ce qu'on veut en tant que personne. pas ce que veulent les autres ou ce que veut la société ou ce que veulent les employés ou ce que veulent les parents ou ce que veulent les frères et sœurs. Ou, voilà, savoir ce qu'on veut nous en tant que personne et ensuite savoir, pas l'imposer, mais le communiquer en tout cas. Le communiquer de manière non violente. C'est pas toujours évident dans des contextes familiaux. Des fois, bah, y a les émotions qui prennent le dessus. Mais à partir du moment où on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on sait comment on veut y arriver. C'est-à-dire que c'est des questions qui, c'est un travail à faire sur soi. Après, l'entourage, quand l'entourage voit que la personne qui est en face de lui, ben, elle est convaincue de ce qu'elle dit, j'ai envie de dire qu'ils n'ont pas le choix que de le respecter et que de l'accepter. Et je pense que culturellement parlant, c'est des choses qu'on n'arrive pas trop à faire au Maroc. Il y a Fat Loualidine, il faut faire plaisir aux parents, mais l'un n'empêche pas l'autre. J'ai envie de dire, les parents, tant que leurs enfants sont heureux et qu'ils savent ce qu'ils veulent, ils vont eux-mêmes être heureux. Et on a tendance à vouloir trop faire plaisir à notre entourage et à s'oublier soi-même. Et bah, des fois, c'est pas la meilleure option. Voilà, tout simplement.
Alors Mona, justement, les coups durs de la vie. Est-ce qu'il y en a eu certains qui forgent un tempérament?
Oui.
Oui. Qu'est-ce qui s'est passé?
J'appelle ça des vaccins.
Ouais.
Oui, j'appelle ça
à immunité
vaccins.
Absolue.
Voilà.
Pas de deuxième dose, yac.
Exactement. Bon. Bon, après, c'est des vaccins qui ne sont pas... qui te forgent. Donc, il y en a... Enfin, j'en ai... Il y en a. Ils commencent à la récréation. Dès qu'on est tout petit, on apprend à se...
Mais celui qui a forgé le plus la femme que vous êtes aujourd'hui?
Moi, honnêtement, encore une fois, pour moi, les voyages m'ont beaucoup aidée, m'ont beaucoup forgée. Et après, quand j'ai repris l'entreprise, oui, il y a eu des moments où j'ai perdu des contrats pour des circonstances qui étaient complètement imprévisibles, inattendues et hors de mon contrôle. Où tu vois 2 ans de travail qui tombe à l'eau, où des fois on est mal considéré parce que on a cette allure de jeune femme. Je suis pas très sophistiquée de nature, je suis assez nature, enfin simple. Et donc des fois, je vois ce regard des autres qui se base un peu sur ce côté un peu
superficiel.
Superficiel, voilà.
Les hommes et les femmes ou bien un genre particulier.
Les hommes et les femmes, les hommes et les femmes.
C'est-à-dire qu'on vous prend pas au sérieux, on se dit c'est une gamine.
Je ne sais pas ce qu'on se dit, mais en tout cas, on sent que c'est ce sentiment de hagra, en fait. On sent que le hagra qui est ambiante. J'ai surtout senti ça au niveau des administrations, des fois, on me dit... après,
on vous dit quoi, Mona ?
Faut aussi dire que ayant vécu un peu à l'étranger, avec cet esprit un peu occidentalisé, des fois quand on se retrouve avec l'administration marocaine où il faut lire entre les lignes des choses que je n'arrive pas à décrypter, que j'ai dû apprendre à décrypter avec le temps, c'est pas toujours. C'est pas toujours facile. Mais en tout cas, j'ai eu des situations où j'ai vu, tout ce que j'avais prévu ne se passait pas comme
prévu.
Ouais. Et moi, alors ma manière de réagir, ça peut sembler un peu fataliste ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis. J'ai appris à ne pas trop contrôler et à me dire quand les choses ne se passent pas comme prévu, c'est peut-être que c'est pas le moment. Laisse les choses se faire. Peut-être qu'il y a autre chose qui t'attend, encore mieux. Et donc ça me permet d'avancer et de ne pas trop me ne pas trop me dire, bon, ben ça y est, c'est la fin, pourquoi moi
Mais ce ressenti de hagara, de dénigrement, quand il arrive, c'est un mot très fort, hein, le hagara, quand on dit ça, c'est un mot extrêmement fort. Vous dites qu'il est lié à votre genre de femme, à la femme que vous êtes. C'est ça qui...
Oui. Je pense que c'est un tout. C'est pas que le fait. Après, il faut apprendre à... J'ai envie de dire que on peut pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais ce qu'on peut contrôler, c'est nous-mêmes. C'est la seule chose qu'on peut contrôler aujourd'hui. Donc, à partir du moment où on sent cette chagra, en fait, c'est un sentiment, déjà. C'est une petite voix qui est là, qui nous dit tu es en train de te sentir mahagora, là, maintenant, à ce moment précis. Donc, on a le contrôle sur notre petite voix, déjà, la première des choses. Après, on a le contrôle sur est-ce que ce sentiment-là, même s'il est réel, peut-être qu'il est réel, mais comment on peut le tourner à notre avantage? Donc, moi, des fois, quand j'ai ce sentiment-là de gens qui me prennent pour une gamine, qui me prennent de haut, ça m'arrive pas souvent, hein, mais ça arrive. Pas des choses qui, c'est pas quelque chose que je vis quotidiennement, mais c'est des choses que j'ai pu vivre à 2 ou 3 reprises. Et donc moi des fois, ce que je fais, c'est que
mais je crois qu'on a tous vécu ça, hein. On a tous vécu ça quand même, bien sûr, c'est les rapports humains.
Exactement. Ben, des fois, on tourne ça à notre avantage. Quand j'ai quelqu'un de senior devant moi, j'essaye de... Je lui dis, écoute, imagine que je suis ta fille.
Vous le dites comme ça, clairement?
Ça m'est arrivé, comme si... aidez-moi, comme si j'étais votre fille, je suis une jeune femme, on galère, c'est la vérité, l'entrepreneuriat c'est pas facile, je galère, j'essaie de faire ma place, on essaie de faire... Enfin, surtout que moi je porte une cause au-delà qui est un peu plus grande que mon entreprise, pour moi je suis femme chef d'entreprise, mais je suis aussi, je milite pour une cause qui est de la sauvegarde des sols, qui est pour moi importante. Donc, des fois, cette cause-là, qui est plus grande que moi, me pousse à sortir de ma zone de confort et à aller faire des choses que je n'aurais pas fait, je n'ai pas l'habitude de faire. Et donc, pour moi, le fait...
Ça vous anime, en fait, au point de vous dépasser.
Bien sûr. Pour moi, parce que il faut savoir il faut sensibiliser les gens. Voilà.
Eh bien, Mona Alami, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci.
Merci pour ce beau partage.
C'est gentil.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.